Ma thèse en 80 secondes. Pour la troisième ou quatrième fois, Radio Campus participe à ce concours. L'édition orléanaise a lieu le vendredi 23 mars à l'hôtel du Pont-Loup à Orléans, avec trois candidats qui sont avec nous. Chloé Felgerol, je le dis bien.
C'est ça.
Hein, de l'INEM, c'est un laboratoire. Vous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. Nicolas Gravis, c'est vous.
C'est moi, ouais.
Hein, Nicolas Gravis est du SIAMS, ça se dit comme ça. Hein. C'est un laboratoire lié à la fac de sport, STAPS, et Lou Grimaud, de la faculté du laboratoire ICAR. Vous direz également ce que c'est. Un petit mot d'abord avec Chloé. Chloé, ma thèse en 180 secondes, vous présentez, vous, vendredi, l'étude de l'hypersensibilité sensorielle visuelle dans le cas du syndrome de l'X fragile. Le syndrome de l'X fragile, je sais ce que c'est. L'hypersensibilité sensorielle, je sais ce que c'est.
C'est déjà pas mal.
Mais... tout ça mis ensemble, ça donne quoi ?
Alors, je vais commencer par présenter le syndrome de l'X fragile, du coup, ça me semble un peu nécessaire. Donc, c'est une maladie génétique, donc héréditaire, qui est due à une mutation dans le chromosome X, comme son nom l'indique, syndrome de l'X fragile, qui donc touche les garçons, majoritairement. C'est une maladie de déficience mentale, donc déficience mentale, comme on connaît, QI très bas, des difficultés d'apprentissage, et puis aussi des troubles autistiques. Et parmi... la pléiade d'autres symptômes qu'on peut trouver. On va aussi pouvoir avoir des problèmes dans tout ce qui va être sensoriel, que ce soit la vision, le toucher, l'audition. Et moi, donc, comme le titre l'indique, je m'intéresse plutôt aux aspects qui touchent la vision. On sait que dans cette maladie, le système visuel, que ce soit vraiment de l'œil au cerveau, est touché par la mutation. Et le but de ma thèse, c'est d'essayer de distinguer qu'est-ce qui est dû dans les problèmes de vision à la rétine, qu'est-ce qui est dû plutôt au cerveau, et voir s'il y a un lien entre les deux, si un impacte l'autre pendant le développement ou ce genre de choses.
Et tout ça en 3 minutes ?
Tout ça en 3 minutes.
Vous êtes préparé comment ?
Beaucoup de répétitions, beaucoup d'écriture et de réécriture du texte. C'est très frustrant avec 3 minutes, on a l'impression qu'on a le temps de rien dire. Mais c'est très formateur parce qu'on est obligé d'aller à l'essentiel et puis de sélectionner. On ne peut pas tout dire, déjà pour des raisons de confidentialité évidemment, mais aussi parce que le temps est compté. Le but, c'est quand même d'expliquer l'essentiel aux gens. Le but n'est pas d'expliquer tout ce qu'on fait dans la thèse évidemment. Donc au moins donner l'idée essentielle et pourquoi on fait ce qu'on fait.
Bah oui, en mettant une sorte de chronologie dans comment vous présentez le truc. Alors qu'est-ce que vous mettez plus en avant ? Ça touche plus les hommes que les femmes ?
Non, j'ai choisi plutôt de m'intéresser à présenter le système visuel.
Oui, d'accord.
Plutôt que de m'apesantir, on va dire, sur une maladie. Moi, je m'intéresse vraiment au système visuel. Je travaille vraiment sur la rétine avant tout. L'aspect maladie, il passe presque au second plan. Je suis vraiment sur comprendre les mécanismes qui passent entre la rétine et le cerveau.
Nicolas Gravis, le SIAMS, un mot d'explication sur l'anagramme SIAMS, c'est quoi ?
Alors, ça veut dire complexité, innovation, activité motrice et sportive. Donc c'est un labo en fait qui est STAPS, donc oui. Science des activités physiques et sportives. Le STAPS, il faut savoir, c'est pluridisciplinaire, donc ça comprend à la fois des aspects physiologiques, sociologiques et psychologiques. Donc c'est vraiment sur ces différents pans de la science qu'on peut travailler. Moi, je travaille plutôt sur les aspects physiologiques, même si dans ma thèse, j'ai quelques questionnaires qui sont orientés psycho, mais ma spécialité est plutôt orientée sur la physio et également la performance sportive.
Et votre sujet de thèse, vous, c'est DHEA, on va expliquer également, et pratique sportive, effet de prise de DHEA de courte durée sur la performance, la composition corporelle et répercussions hormonales chez le sportif et la sportive de loisirs.
C'est ça.
DHEA, c'est quoi ?
Donc la DHEA, ça veut dire déhydrohypandrostérone. Donc en fait, pour expliquer simplement, c'est une prohormone stéroïde qui peut se transformer dans nos cellules en testostérone. Donc on sait que la testostérone, c'est l'hormone du mâle par excellence, même si les femmes ont un petit peu de testostérone, qui permet entre autres de fabriquer du muscle et de perdre de la graisse. Mais la DHEA peut également se transformer en œstrogène, donc plutôt les hormones des femmes, même si les hommes ont aussi des œstrogènes.
Et tout ça, c'est naturel, hein ?
Alors, la DHEA est produite par le corps humain, mais nous, on donne en plus, en fait. Ouais. C'est une administration qu'on dit exogène, donc qui vient en plus de notre propre production.
Et vous, ouais. Comment vous êtes préparé pour cette restitution vendredi prochain ?
En fait, j'essaie vraiment de simplifier au possible ce qu'est la performance. Donc, au lieu de préciser les tests de performance qu'on a fait, j'ai dit courir, sauter, être plus fort plutôt que de batailler sur des tests qui sont très compliqués pour le commun des mortels.
Ce laboratoire, alors, on revient d'un mot sur le fonctionnement du STAPS, c'est la fac de sport,
c'est ça.
Je viens comme ça, avec des laboratoires dedans, hein, c'est pas, on ne fait pas STAPS que pour être professeur de sport.
Non, non, du tout, il y a énormément de disciplines qui peuvent être ciblées par les STAPS, on peut faire effectivement prof de PS, ce qui est un petit peu différent de prof de sport, on peut faire entraîneur sportif. On peut être manager dans des structures sportives et on peut aussi faire de l'activité physique adaptée. Donc là, je pense notamment à l'une de mes directrices qui est responsable de la licence activité physique adaptée à Orléans, qui fonctionne plutôt bien.
Voilà. Lou Grimaud, Icare. Alors le Icare, on connaît, on a eu beaucoup de, ou des enseignants ou des étudiants dans cette radio. Vous allez parler des propulseurs de...
Hall.
De Hall.
Propulseur de Hall.
À longueur durée de vie et haute impulsion spécifique.
Ouais.
Hall, alors, c'est un nom...
Alors c'est un nom propre.
Propre.
C'est le nom d'un scientifique qui a découvert un phénomène qu'on utilise dans nos moteurs. Et pour faire simple, c'est des moteurs pour l'espace, donc pour satellites. Et au lieu d'être des moteurs où on fait brûler des produits chimiques ensemble, c'est des moteurs plasma où on accélère un gaz avec de l'électricité. Et l'avantage par rapport à un moteur fusée classique, c'est que c'est beaucoup plus économe en carburant. Donc on peut avoir 3 à 4 fois moins de carburant sur nos satellites. Donc ça veut dire plus de place pour des instruments scientifiques, par exemple, ou des systèmes de télécommunication, ou alors avoir un satellite plus léger, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 euros le kilo pour envoyer un objet dans l'espace. Donc, si on peut gagner du poids, on est tout gagnant. Quoi.
Ah, super. Alors, si, je disais que oui, on connaît le labo Icare à Radio Campus, mais les auditeurs ne connaissent peut-être pas. Dites ce que c'est.
Alors, Icare, on fait pas mal de trucs très différents. On a une partie combustion, donc on va essayer combustion, détonation, ce genre de choses. On va par exemple essayer de voir les risques industriels pour des explosions d'hydrogène, par exemple ce qui s'est passé à Fukushima, par exemple. Il y a des parties performance, par exemple, pour les biocarburants. Il y a toute une branche aussi réactivité atmosphérique, où on étudie la pollution atmosphérique et la chimie de l'atmosphère. Où ils ont fait pas mal d'études, par exemple, en Chine, où essayer de voir comment les polluants se désagrègent au fur et à mesure du temps, comment ils réagissent les uns avec les autres. Et puis, on a une équipe plasma, propulsion plasma, donc un peu plus petite, parce qu'à Orléans, on a une grosse chambre d'essai qui est un moyen d'essai national pour la propulsion plasma.
Oui, avec de vraies répercussions nationales, et même à l'européen, on a passé par
voilà,
de
projets
européens.
Voilà, après, nous, on est financé en partie par les projets européens, et c'est vrai que c'est une des chambres de référence en Europe pour faire de l'étude de ces moteurs-là. Après, nous, en tant qu'équipe expérimentale, on est une des seules en Europe à faire vraiment ce qu'on fait, donc... c'est une sacrée opportunité quand on a l'occasion de bosser là-dedans. Quoi.
Et comment vous, Lou, vous êtes préparé à résumer tout ce que vous venez de nous dire en 3 minutes?
Je pense qu'il faut aussi de pas mal mettre en place le contexte de la thèse et à quoi ça sert, plus que des fois peut-être les aspects techniques. Moi, j'ai essayé de plus m'orienter là-dessus. Plus que sur l'aspect vraiment recherche et ce que je fais, quelles sont les solutions que j'ai trouvées. Parce que c'est vrai qu'après, il y a des sujets qui sont un peu plus faciles d'accès. Là, quand on dit, quand vous avez lu le nom de la thèse,
c'est
ça, les gens, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Quoi. Donc, essayez d'expliquer déjà la technologie, l'aspect, à quoi ça sert, où on s'en sert, une fois que c'est dans l'espace, pourquoi on s'y intéresse. Quoi.
C'est la même question que je pose tous les ans. Généralement, quand ma thèse en 180 secondes sur concours a été lancée, il y a toujours les bien-pensants qui disaient comment est-ce possible de résumer une thèse de plusieurs, parfois centaines de pages en 3 minutes. C'est la science, à minima. Pourquoi vous êtes lancée là-dedans, Chloé?
Déjà, un peu comme a dit Lou, je trouve que c'est hyper important de pouvoir expliquer plus le contexte de nos recherches, pourquoi on le fait, pour qui on le fait et à quoi ça sert derrière. Que, effectivement, le but n'est pas d'expliquer au jour le jour ce qu'on fait, mais d'expliquer le contexte de la société, comment il s'inscrit dedans et pourquoi on le fait surtout. Donc je pense que c'est surtout ça sur lequel il faut appuyer. C'est ça qui intéresse les gens de toute façon, c'est se dire mais à quoi ça sert ce que vous faites. C'est ce qu'on entend, enfin moi personnellement, ce que j'entends dans la vie de tous les jours, c'est mais à quoi ça sert ce que tu fais. Donc je pense que c'est un peu l'objectif aussi de répondre en 3 minutes, comme si on était au repas de Noël avec les grands-parents, c'est d'expliquer, bah, voilà où on en est dans la recherche, sur, moi c'est une maladie, mais sur les moteurs plasma, sur le sport ou le dopage ou je ne sais quoi, voilà où on en est actuellement, et bah, la recherche, qu'est-ce qu'elle fait actuellement et dans quoi moi je suis pour justement faire bouger ce sujet ou tel autre. Et je pense que c'est plus ça qui est important sur les 3 minutes, c'est vraiment, voilà, comme Lou l'a dit, expliquer... le contexte, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et qu'est-ce que derrière ça peut apporter à la société, au final, à tout le monde.
Nicolas ?
C'est ça, je crois que c'est vraiment ressortir la quintessence de notre travail en mettant de côté les aspects un petit peu complexes et en faisant vraiment des choix pour se focaliser sur les aspects abordables pour que tout le monde comprenne, surtout l'intérêt de notre thèse. Après, ce qu'on fait précisément, je pense que ce n'est pas très, très important pour la grande majorité des gens. Ça intéressera sûrement que le jury de notre thèse et quelques scientifiques dans le monde. Mais voilà, c'est vraiment rendre accessible quelque chose de compliqué.
Lou ?
Ouais, bah après, d'un autre côté aussi, c'est parce que c'est les gens qui nous payent, hein, aussi. Ça paraît aussi bête, mais voilà. Moi, je suis par exemple, j'ai une thèse qui est financée en partie par la région Centre. Donc, pouvoir aussi... rendre un peu, expliquer un peu à quoi sert l'argent qui a été donné, c'est toujours important. Et puis montrer aussi que la recherche, c'est pas que des vieux avec les cheveux blancs, des grosses lunettes et puis un blouson, enfin une blouse de chimie. Y a vraiment tout type de gens dans les labos, avec des parcours différents, avec une façon de se présenter différent, et qu'on peut aussi faire un peu un show, qu'on n'est pas tous les geeks qui sont uniquement intéressés par la partie technique, quoi. Et ça, c'est important. Et puis c'est valorisant pour les labos, c'est valorisant pour le public parce qu'ils se sont impliqués dans ce type d'action. Et puis c'est valorisant pour nous aussi parce qu'on arrive à sortir un peu de l'aspect technique et hyper spécialisé qu'on a eu et essayer de toucher plus de monde dans le public général, quoi.
Vous avez eu l'occasion de regarder d'autres choses qui ont été faites pour ma thèse en 180 secondes, notamment à Orléans ou au National ou pas ?
Oui, tout à fait. Sur YouTube, il y a plein de régions qui mettent sur leur chaîne les concours respectifs à Bordeaux, à Toulouse, etc. Donc je pense que ça nous a plus ou moins tous inspirés, au moins dans le ton général à donner au concours,
quoi.
Oui, la même chose. Moi, je connais que via YouTube, justement, et je me suis un peu inspirée aussi, au moins pour me mettre dans l'esprit et voir comment on peut gérer le temps ou quels moyens utiliser pour justement capter le public, aussi au niveau de la gestuelle, tout ce qu'il y a autour, en fait.
Mais quand vous allez sur YouTube notamment, est-ce que vous allez directement sur des concurrents qui parlent d'immunologie?
Non, pas du tout.
Vous avez regardé tout?
Moi, j'ai voulu justement sortir de mon domaine. Écoutez, de la bio, j'en entends toute la journée, donc j'ai voulu changer, on va dire. Et puis je voulais voir d'autres choses, d'autres types de sujets. Et puis je me suis plus posé la question de moi, mon sujet, c'est ça, j'ai tel problème ou tel truc, à mon avis, je vais un peu galérer à l'expliquer. Et comment dans d'autres disciplines on peut feinter ou on peut justement utiliser? Et non, justement, j'ai écouté de tout sauf de la bio. J'ai écouté de la gestion du climat, des tests même de lettres. Il y a quelqu'un qui faisait un truc sur les Mérovingiens et qui chantait Le bon roi d'Agobert. Enfin voilà, je me suis vraiment inspirée de toute la richesse qu'on a autre. Enfin, c'est bon, on est biologiste, j'en vois toute la journée. Donc là, il fallait que je change, quoi.
Vendredi 23 mars. Alors, c'est à quelle heure exactement? Vous 16 avez heures. 16 heures, c'est à l'hôtel du Pont-Loup, c'est ouvert au public évidemment. J'ai l'impression, avant de rentrer en studio, vous connaissez, vous êtes concurrent vendredi, mais ouais. Vous êtes assez amis, non? Vous vous connaissiez avant?
On avait préparé en fait ensemble, donc l'école doctorale nous aide à préparer un petit peu ça, avec des gens qui, notamment avec une présentation plus théâtre par exemple, et puis des gens qui ne sont pas experts dans le domaine, ce qui est toujours agréable. Et puis c'est toujours bien aussi parce que là on vient de labos très variés, et même quand on va présenter là pour vendredi, il va y avoir... de tout, hein, de la langue,
l'agriculture, l'imagerie, il y a vraiment de tout.
Ouais. L'informatique, ainsi de suite, c'est vraiment très très varié. Donc c'est des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer sur le campus, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu, des fois, limité sur notre domaine à nous, notre labo à nous, surtout quand on est CNRS, université, et ainsi de suite. Et là, c'était vraiment super sympa de pouvoir préparer tous ensemble, et puis de pouvoir s'inspirer les uns les autres. Et puis voir les différents styles aussi de présentation. Des gens qui ont des styles très plus humour, d'autres qui ont choisi une approche un peu plus grave, d'autres qui ont des choses un peu plus narratives, un peu plus lyriques, et ainsi de suite. C'est super intéressant de voir justement les différentes façons de présenter une thèse qui existe, quoi.
Et alors, là, c'est la finale locale d'Université d'Orléans. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau de, bah, de la commu. Enfin, je crois que ça continue, ouais. Avec l'Université de Tours, notamment, et de Poitiers. Et puis la finale nationale. Vous projetez déjà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une finale internationale même. Hein. Je crois qu'il y a une finale internationale qui a été gagnée une fois par un ou une Française, je crois. Vous projetez ou pas?
Ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'ai fait le concours pour aller au bout. Je suis
on sent le sportif là. Il a pris la DHA, il est au taquet là.
La DHA, ça ne marche pas.
Oui, c'est bien. Ça marche
pas. Bah, gâche pas la surprise.
Non, moi, je suis sportif, donc je participe à un concours pour gagner. Voilà. Mais bon, je suis quand même fair play, donc si jamais mes concurrents gagnent, ça sera tant mieux pour eux, quoi.
Et vous, Chloé?
Ah bah moi j'ai envie d'aller le plus loin possible, c'est évident. Après mon objectif c'est surtout de au moins passer un tour de sélection pour me dire bah ce que j'ai fait ça a quand même de la valeur, même si je vais pas forcément plus loin que la régionale. Évidemment ça me ferait plaisir, mais j'en ferais pas une maladie. Et mais au moins voir un peu ce que je vaux et puis voilà me montrer un peu, me dire que me le prouver en fait. C'est plus pour me le prouver. Et bah plus loin j'irai mieux ce sera, mais au moins passer un tour de sélection pour l'ego et pour le moral, ça fait toujours plaisir.
C'est Lou.
Ouais, pareil, moi, c'est plutôt... J'aimerais bien aller aux régions. Après, je n'ai pas d'ambition plus, forcément, beaucoup plus loin que ça. Après, je me sentais très à l'aise avant de commencer en me disant « Ouais, ça va, j'ai fait pas mal de choses de communication comme ça et tout ça. » Et puis, quand on arrive à faire vraiment l'exercice, où on est sur scène en 3 minutes, avec langage corporel, façon de parler, articuler, ainsi de suite, c'est toute une autre chose que de faire une présentation d'un quart d'heure où on a le temps de parler, de bouger un peu plus, de faire un peu ce qu'on veut. Et donc là, je suis un peu moins sûr de moi qu'au tout début.
Merci en tout
Lou
cas.
Lou fait quand même partie des favoris.
Oui, c'est vrai.
Ouais, il fait partie des favoris.
Bon, ben on va voir ça. En tout cas, merci d'être venu dans les studios de Radio Campus et on se retrouve vendredi puisque j'ai la chance d'avoir été appelé pour être dans le jury. Donc, on verra ça ensemble. Ça se passe à 16h à l'hôtel du Pont-Loup à Orléans, vendredi 23, la finale locale de l'Université d'Orléans de ma thèse en 180 secondes. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.